Vous écoutez, on lit pour vous.
Logement en crise, solutions en marche. Un dossier de Suzanne Colperon, paru le 9 août 2025 dans La Presse. Face à une crise du logement qui s'intensifie dans les régions touristiques, la MRC des Laurentides a mis sur pied un projet inédit au Québec. Une fiducie pilotée par les maires pour construire des logements à l'abri de la spéculation. D'autres villes, d'ici et d'ailleurs, adoptent aussi des solutions audacieuses pour protéger l'habitation. Une fiducie pour protéger le logement abordable. On est prêt! Marc Lheureux ne cache pas son impatience. Le maire de Brébeuf et préfet de la MRC des Laurentides pilote un projet ambitieux et inédit. Créer une fiducie d'utilité sociale pour loger la main-d'œuvre et les étudiants. Une première au Québec. Ce modèle, imaginé par les élus locaux, répond à deux urgences. La pénurie de logements abordables et la rareté de main-d'œuvre dans des secteurs clés comme le tourisme, la santé, l'éducation et la mécanique. Ce n'est pas juste que c'est cher, c'est qu'il n'y en a pas de logements, résume Marc Lheureux. À Mont-Tremblant, le taux d'inoccupation frôle le zéro et les prix flambent. Une fiducie d'utilité sociale est une façon de protéger un bien ou un projet pour qu'il serve l'intérêt collectif sans but lucratif. Par exemple, la fiducie peut être utilisée pour préserver un immeuble, un espace naturel ou offrir du logement abordable. Le bien est géré par des personnes responsables qu'on appelle les fiduciaires, selon des règles précises, pour s'assurer qu'il reste au service de la communauté, peu importe les changements de propriétaire ou de contexte. Contrairement aux projets traditionnels pilotés par des promoteurs, la fiducie repose sur un montage public. Les terrains sont fournis par des municipalités, le gouvernement ou des partenaires privés. La propriété est transférée à la fiducie qui garantit leur usage résidentiel collectif à perpétuité. Ce qui fait la particularité d'une fiducie, c'est la pérennité. On crée un parc immobilier qui va rester abordable pour toujours, explique Kimberly Mayer, mairesse de Lac-Tremblant-Nord. Les loyers seront fixés pour rester stables et prévisibles. La construction et la gestion seront assurées par un organisme sans but lucratif, mais la gouvernance de la fiducie reviendra exclusivement au maire de la MRC. Il faut être obligatoirement maire pour en faire partie, précise Marc Lheureux. Pour les travailleurs et les employeurs. Le projet vise d'abord à loger des travailleurs. Tel employeur va prendre 5 portes et les louer à ses travailleurs sans avoir à gérer un immeuble au complet, illustre le préfet. Ce modèle répond à une demande croissante. Certaines entreprises, comme l'hôtel Fairmont Tremblant, offrent déjà des logements ou des chambres à leurs employés. D'autres, plus petites, n'ont pas les moyens de gérer du logement. La fiducie leur offre une solution clé en main. Le premier chantier, situé sur la rue Labelle, à Mont-Tremblant, prévoit 68 logements. D'autres initiatives sont en préparation à Mont-Blanc, Sainte-Agathe-des-Monts et Brébeuf. Objectif, 150 logements en 5 ans. En attente du feu vert. Mais le projet ne pourra pas démarrer sans un appui clair du gouvernement. Le préfet affirme que la ministre responsable de l'habitation, France-Hélène Duranceau leur a souvent demandé de penser à l'extérieur de la boîte. Et là, on est sorti de la boîte avec la fiducie, dit-il. Mais on est en attente. On n'a pas encore le feu vert. On est prêt. On n'attend pas le chèque, là, mais pas loin. La MRC a déjà mobilisé 1 million et évalue les besoins à 5 à 6 millions pour lancer le premier projet. L'urgence est bien réelle. Selon une étude de la Corporation de développement économique, la région aura besoin de 18 000 travailleurs d'ici 2030 pour maintenir sa croissance et remplacer les départs à la retraite. On voit mal comment 18 000 personnes vont arriver d'ici 2030. Et surtout, où est-ce qu'on va les loger? Évoque Marc Lheureux. Au manque de logements s'ajoutent des obstacles administratifs, notamment en lien avec les politiques migratoires. Il y a beaucoup de bureaucratie, beaucoup d'attentes, et cela empêche bien des gens d'agir, soulève Kimberly Mayer. Elle déplore aussi les compressions dans les cours de francisation. Selon elle, le ministère de l'Immigration a investi pour accueillir et intégrer les nouveaux arrivants, mais ces efforts risquent d'être perdus si l'on cesse d'attirer des immigrants dans les Laurentides. La région a des services d'intégration, mais pas assez de cours de francisation, ce qui complique la rétention de la main-d'œuvre. Un modèle reproductible? Le projet de fiducie a reçu en mai le prix Ovation de l'Union des municipalités du Québec dans la catégorie administration municipale. Depuis, plusieurs municipalités ont demandé à en connaître les détails. On a partagé notre savoir-faire avec nos collègues de MRC de la région. Parce que ça a quand même coûté cher, monter cette fiducie, en avocat, en recherche, en développement, note Marc Lheureux. À l'heure où d'autres villes touristiques du Québec cherchent des solutions, le modèle de la MRC des Laurentides propose une piste originale. Reprendre collectivement le contrôle du logement pour que le territoire demeure habitable au-delà de la haute saison. En savoir plus. 11 000. Source, Statistique Canada. Nombre d'habitants de Mont-Tremblant, situé à une centaine de kilomètres au nord de Montréal. La population totale de la MRC des Laurentides est de 51 297 personnes. 235 km². Source, ville de Mont-Tremblant. Superficie de Mont-Tremblant qui occupe la partie centrale de la MRC des Laurentides. Vous écoutez Logement en crise, solution en marche. Un dossier de Suzanne Colperon paru le 9 août 2025 dans La Presse. 6 villes, une même urgence. Crise du logement, explosion du tourisme, pression spéculative. Dans les zones touristiques, des municipalités reprennent le contrôle. Voici 6 exemples d'ici et d'ailleurs. Gaspé, priorité aux résidents. Face à une pénurie de logements, Gaspé a adopté une stratégie pour freiner l'hémorragie. On voyait de plus en plus de conversions de logements en location à court terme. Il fallait protéger le parc résidentiel, explique le maire Daniel Côté. Depuis 2023, seules les résidences principales peuvent être louées à court terme, les résidences secondaires étant exclues en zone urbaine. Cette mesure a entraîné une chute des conversions et un recul de l'offre illégale. il n'y a pratiquement plus de nouvelles conversions et plusieurs ont rebasculé vers la location à long terme, indique le maire. La ville a aussi mis en place des mesures fiscales. Les immeubles utilisés à des fins touristiques sont désormais taxés au taux commercial, soit 4,3 fois plus élevé que le taux résidentiel. La rétroactivité des ajustements a entraîné des factures salées, forçant de nombreux propriétaires à se retirer du marché Airbnb. Parallèlement, Gaspé a encouragé la construction résidentielle. Grâce à une loi privée obtenue à l'Assemblée nationale, la ville a pu offrir des congés de taxes et des mesures incitatives pour stimuler l'habitation. En tout, 533 nouveaux logements ont été construits en 5 ans. On a freiné les conversions et stimulé la construction, dit Daniel Côté. Malgré tout, on est passé que de 0 à 0,2 % d'inoccupation. C'est dire à quel point la demande est forte. La municipalité collabore également avec les entreprises pour loger les travailleurs étrangers temporaires. Sans eux, plusieurs restaurants, usines ou services publics seraient paralysés, souligne le maire. Gaspé n'a pas suivi les exemples existants. Elle a ouvert la voie. On a été innovateurs. Notre modèle a inspiré une réforme provinciale qui donne aujourd'hui à toutes les villes les mêmes outils que nous, conclut M. Côté. Baie-Saint-Paul, des travailleurs au couvent. À Baie-Saint-Paul, la rareté des logements pour les travailleurs saisonniers a conduit à une solution originale. Réaménager une partie de l'ancien couvent des petites franciscaines de Marie. Depuis quelques années, l'organisme Maison-Mère y hébergeait déjà des employés de différentes entreprises locales. L'arrivée du Club Med Charlevoix a toutefois marqué un tournant. Le Club Med est venu nous voir en disant « Nous, on prendrait les lits qui sont disponibles et on va vous les payer à l'année pour nos travailleurs », explique Josette Tremblay, directrice générale. Résultat, les 200 lits sont aujourd'hui entièrement occupés par des employés du Club Med Charlevoix, en grande majorité venus du Mexique. Ce partenariat de 3,6 millions sur 2 ans vise non seulement à assurer un hébergement stable pour les travailleurs étrangers, mais aussi à financer la rénovation du site. Il est actuellement en cours de renouvellement pour une période équivalente. Maison-Mère ne se limite pas à offrir un toit. Elle propose aussi un milieu de vie avec du personnel hispanophone et des activités pour favoriser l'intégration. On veut qu'ils se sentent chez eux, précise Mme Tremblay. Île-de-la-Madeleine, des balises pour les locations touristiques. C'est un classique aux Îles-de-la-Madeleine. Chaque été, des locataires doivent quitter leur maison pour laisser la place aux touristes. La municipalité a donc adopté des mesures pour encadrer les locations touristiques. Un nouveau règlement de zonage limite leur multiplication et les propriétaires de ces résidences sont désormais imposés à un taux commercial, un changement qui ne s'est pas fait sans heurts, puisqu'il s'agit d'un taux de taxation 3 fois plus élevé que la taxe résidentielle. La crise du logement force aussi les employeurs à s'organiser. Certains possèdent des maisons ou des appartements pour loger leurs employés recrutés à l'extérieur des îles, mais les grands employeurs n'ont pas le choix. Il faut construire. La municipalité a récemment approuvé un projet de bâtiment de 5 étages qui abritera 60 logements destinés aux employés du Centre intégré de santé et de services sociaux des îles, CI3S, à Étang-du-Nord. Pour justifier la hauteur inhabituelle, le règlement municipal autorise habituellement 12 logements sur 3 étages, le maire, Antonin Valiquette, a fait valoir que sans logement, il manquerait d'infirmières et de préposés aux bénéficiaires. La Vague, la Corporation d'innovation et de développement des îles, planche, quant à elle, sur un projet de 36 logements qui pourront accueillir jusqu'à 72 travailleurs d'un grand employeur de la région. Les logements, qui seront construits à quelques centaines de mètres du port de Cap-aux-Meules, devraient être livrés au printemps 2027. Lisbonne, reconversion anti-Airbnb. Lisbonne continue de serrer la vis face à la crise du logement. Depuis 2020, dans le cadre du programme Renda Segura, la municipalité rachète ou réintègre des appartements touristiques, souvent loués sur Airbnb, pour les proposer à des habitants, à des foyers environ 30 % inférieurs au marché. Cette stratégie s'inscrit dans un plan plus large. En 2023, le Portugal a mis fin au Golden Visa lié à l'immobilier qui attirait les investisseurs étrangers. En mai 2025, la mairie a aussi prolongé le moratoire sur les nouvelles licences de location touristique dans les quartiers les plus touristiques. Barcelone, reprendre 10 000 logements. Les appartements touristiques vivent leurs dernières années à Barcelone. D'ici novembre 2028, la ville supprimera les quelque 10 100 licences qui permettent actuellement de louer un logement entier à des visiteurs. Cette mesure, rendue possible par un décret catalan de 2023, vise à libérer ces logements pour les résidents. L'objectif est de faire baisser les loyers, qui ont grimpé de 68 % en 10 ans, et de freiner la spéculation. Les permis actuels, d'une durée maximale de 5 ans, prendront fin en 2028, sans possibilité de renouvellement. Amsterdam, stop à l'expansion hôtelière. Depuis 2024, la ville d'Amsterdam a interdit la construction de nouveaux hôtels, sauf si elle s'accompagne d'une fermeture ailleurs. L'idée? Protéger l'équilibre résidentiel. Les locations de courte durée sont aussi sous surveillance. Actuellement, les habitants peuvent louer leur logement jusqu'à 30 nuits par an. À partir de 2026, cette limite pourrait être réduite à 15 nuits dans les quartiers les plus touchés. Par ailleurs, aux Pays-Bas, une réflexion est en cours pour mettre en place une taxe sur les logements vacants. C'était Logement en crise, solutions en marche. Un dossier de Suzanne Colperon, paru le 9 août 2025 dans La Presse.
Entre la communauté LGBTQ+ et le SPVM, un fossé demeure. Un texte d'Elena Meyer et Marieke Glorieux-Strickmann paru le 5 août 2025 dans Le Devoir. Le souvenir de la discrimination policière reste vif pour certains membres de la communauté LGBTQ+, montréalaise. Malgré la multiplication de gestes symboliques de la part du service de police de la ville de Montréal, SPVM, drapeaux, véhicules aux couleurs de l'arc-en-ciel, formation et sensibilisation, le corps policier demeure exclu du défilé de Fierté Montréal, une réalité qui témoigne d'une fracture jamais réparée. Selon Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal, l'organisme doit agir en médiateur afin d'encourager un dialogue entre ses organisations membres et le SPVM qui pourrait mener à terme à leur inclusion dans le défilé. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait cette rencontre-là. Ils n'ont pas à s'entendre sur tout, mais trouver un petit point de consensus puis avancer ensemble. Yara Koussa, co-organisatrice de Fierté Indomptable, a un point de vue différent. Oui, c'est un défilé, mais ça part d'une manifestation, puis une manifestation où des membres de la manifestation sont des policiers. C'est incohérent. Fierté Indomptable, qui défilera cette année parallèlement à Fierté Montréal, s'oppose à la présence policière. Ce contre-cortège a été fondé autour du soutien pour la Palestine et du rejet de la fierté corporative. Samia Lemrini, co-organisatrice, fait écho aux propos de sa collègue. Ce n'est pas la police qui nous garde en sécurité. Ça n'a jamais été le cas, puis on ne va jamais croire que c'est le cas. Nous sommes conscients des traumas, affirme Rose-Andrée Hubard, conseillère en EDI, Équité, Diversité et Inclusion, au SPVM, rappelant que le corps policier a présenté à deux reprises des excuses publiques à la communauté LGBTQ+. En interne, nous avons des policiers qui en font partie et qui parfois subissent une double discrimination. Ils souhaitent être acceptés dans l'ensemble de leur identité. C'est pourquoi nous continuerons de travailler très fort pour nous rapprocher de toutes les communautés. Un souvenir de violence. Cette méfiance envers les autorités policières s'ancre dans un long passé de répression. Dans la nuit du 15 juillet 1990, une descente policière au Sex Garage, un loft populaire auprès de la communauté LGBTQ+ de Montréal, donne lieu à une mobilisation historique. Le premier défilé de la fierté de Montréal, organisé en 1993 par l'organisme Diversité, est né de ce traumatisme. C'est sûr qu'il y a des enjeux historiques entre les communautés LGBTQ+, puis les forces policières. Ce n'est pas propre à Montréal, c'est plus large que ça, souligne Simon Gamache. Les premiers événements de fierté LGBTQ+ découlent des descentes policières au Stonewall Inn à New York. Mais pour Samia Lemrini, la fracture s'est creusée davantage en 2020, au lendemain des manifestations du mouvement Black Lives Matter, et encore lors de la réponse aux manifestations pro-Palestine qu'elle qualifie de brutalité policière. Oui, on peut parler de queerness, mais je pense que ce qui est le plus visible, c'est vraiment les violences systémiques envers les personnes racialisées, affirme-t-elle. Simon Gamache dit de son côté être conscient de l'intersection de ces différentes luttes pour certains membres, mais souligne que Fierté Montréal n'est pas un organisme de revendication des personnes noires. Nous, notre mission, ce n'est pas ça, estime-t-il. Les efforts du SPVM. Du côté du SPVM, on insiste sur les initiatives mises en place depuis plusieurs années. Un comité de diversité sexuelle et de genre pour faire évoluer les pratiques professionnelles est établi depuis plus de 5 ans. Une journée complète de formation où des organisations LGBTQ+ ont animé des tables rondes a été organisée en 2024. Des séances de sensibilisation à la réalité LGBTQ2+ sont également offertes aux policiers de certaines divisions du SPVM depuis 2021. Le SPVM dit aussi avoir déjà formé plus d'une 50aine de policiers à la prévention des thérapies de conversion en début d'année et dit explorer les possibilités de développer des partenariats avec les organismes communautaires LGBTQ2+. Fierté Montréal salue les avancées du corps policier montréalais, mais admet qu'il reste du chemin à faire. Ça doit d'abord venir du SPVM, et je pense que le SPVM veut le faire, estime Simon Gamache. Selon lui, il existe un avenir où le service de police participe au défilé de Fierté Montréal, mais il souligne que cette évolution se fera au rythme de la communauté LGBTQ+. Une relation encore difficile. Pour Fierté Indomptable, le SPVM reste encore mal préparé à comprendre les réalités complexes de la communauté queer dans une ville aussi diverse que Montréal. Le visage de la queerness à Montréal n'est pas homogène. Il n'est pas simplement blanc. Il est très intersectionnel, souligne Mme Lemrini. La co-organisatrice du mouvement se questionne également sur le contenu des formations policières actuelles et elle demande que le SPVM offre des formations antiracistes, anti-islamophobes, ainsi que sur l'antisémitisme, entre autres. Est-ce qu'ils ont une formation par rapport aux personnes LGBT qui sortent du carcan « homme blanc gay » ou « femme blanche lesbienne » se demande-t-elle. Toutes les oppressions qui existent devraient être enseignées aux policiers. Je pense qu'en matière d'organisation, nous avons fait de grands pas, estime le commandant du poste du quartier 22 du SPVM, Guillaume Théberge, même s'il admet que les liens avec la communauté sont fragiles. On n'est pas parfait. Nous n'avons pas réglé tous les problèmes, mais je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations. Reste que Fierté Montréal maintient l'interdiction pour les policiers de défiler en uniforme. Le SPVM dit accepter cette décision. Le jour où nous pourrons participer au défilé, nous serons là. Si les initiatives du SPVM visent à bâtir des ponts, elles peinent à convaincre une partie de la communauté. Je ne pense pas voir de mon vivant un monde où, en tant que personne marocaine queer, je me sens en sécurité en voyant un policier, confie Mme Lemrini. C'était, entre la communauté LGBTQ+, et le SPVM, un fossé demeure. Un texte d'Elena Meyer et Marik Glorieux-Strittmann, paru le 5 août 2025 dans Le Devoir.